Ésaïe au chapitre 61, et dans les Bibles bleues, le texte se trouve à la page 837. L'Esprit du Seigneur, de l'Éternel, est sur moi, parce que l'Éternel m'a consacré par onction pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux déportés la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour proclamer une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous ceux qui sont dans le deuil, pour donner aux habitants de Sion en deuil, une belle parure au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un costume de louange au lieu d'un esprit abattu. On les appellera alors térébintes de la justice, plantation de l'Éternel destinée à manifester sa splendeur. Ils reconstruiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront les décombres du passé. Ils rénoveront des villes dévastées, des décombres vieux de plusieurs générations. Des inconnus se présenteront et s'occuperont de vos troupeaux. Des étrangers seront vos cultivateurs et vos vignerons. Quant à vous, on vous appellera prêtre de l'Éternel. On vous dira serviteur de notre Dieu. Vous mangerez les ressources des nations et vous tirerez profit de leur gloire. Au lieu de la honte, vous aurez une double part. Au lieu de connaître l'humiliation, ils crieront de joie en voyant leur héritage. C'est ainsi qu'ils posséderont le double dans leur pays et leur joie sera éternelle. En effet, moi, l'Éternel, j'aime le droit. Je déteste voir le vol associé aux holocaustes. Je leur donnerai fidèlement leur récompense et je conclurai une alliance éternelle avec eux. Leur descendance sera connue parmi les nations et leur progéniture parmi les peuples. Tous ceux qui les verront reconnaîtront qu'ils sont une lignée bénie de l'Éternel. Je me réjouirai en l'Éternel, tout mon être tressaillera d'allégresse à cause de mon Dieu, car il m'a habillé avec les vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la justice. Je suis pareil au jeune marié qui, tel un prêtre, se coiffe d'un turban splendide, à la jeune mariée qui se pare de ses bijoux. En effet, tout comme la terre fait sortir son germe, tout comme un jardin fait pousser ses semences, le Seigneur, l'Éternel, fera pousser la justice et la louange devant toutes les nations.
Merci Genova et bonsoir à tous. Avant de commencer, je voudrais remercier tous ceux et celles qui ont prié pour ma famille le week-end dernier. Donc, comme je l'ai dit ce matin déjà, on a eu une grosse frayeur avec notre plus jeune fille qui a 14 mois et qui a fait une très forte fièvre et qui du coup a dû être hospitalisée en urgence. Et ça, comme c'est arrivé la nuit du samedi au dimanche, ça avait été annoncé aux deux cultes ici. Et du coup, je sais que beaucoup ont prié. J'ai reçu beaucoup de messages et nous avons reçu beaucoup de messages, Talia et moi. Et on voulait simplement dire merci, vraiment merci d'avoir prié pour nous. Et Isaline va beaucoup mieux maintenant. Donc merci Seigneur. Voilà, je voulais juste commencer par ça avant d'attaquer le message. Mercredi soir dernier, la tour Eiffel a été éteinte en solidarité avec les habitants de Kaboul après un dramatique attentat qui a fait 90 morts. On avait déjà vu la tour Eiffel éteinte après les attentats de Bagdad, d'Égypte, de Londres, de Saint-Pétersbourg, d'Orlando, de Bruxelles et de Paris. Et je ne sais pas si ça sera le cas encore ce soir ou demain soir suite aux attentats de Londres. Alors c'est un geste beau et fort. Et on peut aussi apprécier le fait que, quel que soit le lieu, pas seulement les grandes villes occidentales, mais également Kaboul, Bagdad, etc., qu'on se solidarise ainsi. Mais si on devait être un peu cynique, on serait tenté de dire, est-ce que ça vaut la peine de la rallumer, la tour Eiffel? Parce qu'en ce moment, il y a un attentat tous les quelques jours dans le monde. Et comme les auteurs de la Bible disent à plusieurs reprises, on ne peut que se tourner vers Dieu finalement et dire jusqu'à quand, Seigneur, jusqu'à quand laisseras-tu faire ainsi le mal? À quand une délivrance? Je parle de terrorisme, mais on pourrait parler de tant d'autres sujets. Les inégalités sociales, la crise écologique, la crise de la famille. Seigneur, jusqu'à quand ? Et la vision biblique du monde est unique parce qu'elle souligne avec force et avec réalisme le drame de ce monde. La Bible ne mâche jamais ses mots pour dire à quel point le monde est dominé par le mal et la souffrance à bien des égards. Et dans le même temps, elle proclame avec force qu'il y a une espérance, que Dieu est à l'œuvre dans ce monde pour ramener le monde sous son autorité, pour rétablir la paix. Et la Bible, en fait, si on devait résumer un peu le fil conducteur de la Bible, il y aurait plusieurs manières de le faire, mais on pourrait dire, dans un sens, que c'est l'histoire d'une reconquête divine qui nous est racontée dans la Bible. Dieu qui reconquiert, par sa parole, on va le voir, le monde. Et ce soir, à l'occasion de la Pentecôte, où nous rappelons une étape clé de cette reconquête, la venue du Saint-Esprit, l'effusion, comme on dit, du Saint-Esprit sur tous les disciples de Jésus, après la résurrection de Jésus, alors que nous rappelons donc cet événement, nous allons nous pencher sur ce texte que Génova a lu, Ésaïe 61, un texte très ancien qui date du 8e siècle avant Jésus-Christ, et qui nous parle d'une nouvelle ère à venir, d'une délivrance promise par Dieu. Alors dans le contexte, cette délivrance, elle s'adressait d'abord au peuple d'Israël. Mais on va voir qu'elle dépasse, et on le voit même dans ce texte, qu'elle dépasse ce cadre, et qu'en fait ce texte nous concerne directement. Alors la question qu'on va se poser ce soir est la suivante, comment est-ce que cette délivrance promise par Dieu se manifestera-t-elle ? On va en parler en deux temps. La proclamation d'un héros et l'intervention d'un héros. J'espère que vous appréciez, j'ai travaillé dur là. Alors, la proclamation d'un héros AUT, tout d'abord. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est qu'un héros ? Peut-être pas tous. Un héros, donc orthographié ainsi, avec AUT à la fin, c'est un messager. Quelqu'un qui proclame, qui est investi d'un message à proclamer. Et au début du chapitre 61, il y a un narrateur, tout d'un coup, qui prend la parole et qui se présente comme cela, comme un messager. Verset 1, « L'Esprit du Seigneur de l'Éternel est sur moi, parce que l'Éternel m'a consacré par onction pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. » On a donc un homme qui se présente comme envoyé par Dieu, poussé ou même habité par l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire qu'il est pleinement rempli de la présence de Dieu. Et ensuite, il se présente comme consacré par onction. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, l'onction, au sens propre, c'est le fait de verser un peu d'huile sur la tête de quelqu'un pour l'investir symboliquement d'une autorité particulière. Et c'est ce qui se faisait dans l'Israël ancien. Il y a quelques semaines, on a vu la cérémonie d'investiture du nouveau président de la République. Et à cette occasion, comme le veut le protocole, eh bien, on lui a remis le collier de grand maître de la Légion d'honneur. Alors, en faisant mes petites recherches, j'ai appris que jusqu'à Pompidou, ce collier était porté, et que depuis Giscard d'Estaing, on ne porte plus, on le reçoit simplement. Passionnant, n'est-ce pas ? Mais en tout cas, c'est un geste symbolique qui manifeste, qui signifie qu'on reconnaît l'autorité du chef de l'État. Eh bien, dans l'Israël ancien, on n'avait pas de médaille de la Légion d'honneur, mais par contre, on versait de l'huile sur la tête, et symboliquement, ça disait qu'on reconnaissait l'autorité. Alors, ça pouvait être l'autorité d'un roi, les rois étaient désignés par onction en Israël, ou d'un prophète qui était envoyé pour parler au nom de Dieu. Alors, de quoi s'agit-il en ce qui concerne ce personnage du verset 1 ? Est-ce qu'il s'agit plutôt d'un roi, d'un prophète ? Alors ici, il nous est avant tout présenté comme un prophète, puisqu'il est mandaté pour annoncer de bonnes nouvelles, pour être porteur d'un message de la part de Dieu. Alors, on verra plus loin que la dimension royale, elle est quand même présente dans ce texte, un peu plus discrètement. Mais je reviens à l'aspect de proclamation qui nous occupe pour l'instant. Il faut bien comprendre que ce narrateur, il vient annoncer un message à un peuple qui se trouvait dans une situation déplorable. En fait, son message s'adresse, et c'est frappant, non pas tant aux gens de son époque directement, mais plutôt à un siècle plus tard, il s'adresse à ceux qui seront exilés à Babylone. Ayant été chassés de leur pays, Israël, dépossédés de leur lieu de culte, Un peuple donc qui est en proie à une profonde crise d'identité, qui est tenté d'abandonner tous ses repères et de se laisser aller à la futilité et au désespoir. Qui, dans un sens, rappelle peut-être presque la situation de notre pays aujourd'hui, d'une autre manière. Et c'est peut-être aussi la situation de certains parmi nous ce soir, au niveau individuel, qui se disent « mais je ne sais pas combien de temps je pourrais continuer ainsi, j'ai trop de découragement, trop d'épreuves », qui se posent des questions sur leur identité, sur leur avenir, sur leur foi même. Et c'est dans ce contexte difficile qu'il faut entendre ces paroles. Verset 1, « Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux déportés la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour proclamer une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous ceux qui sont dans le deuil. » Alors cette année de grâce dont il est question ici, c'est une référence à la loi de Moïse, une stipulation dans la loi de Moïse qui déclarait que tous les 50 ans, toutes les dettes étaient remises. Étonnant, hein ? Toutes les dettes étaient remises, les propriétés qui avaient été expropriées étaient rendues à leurs propriétaires d'origine. En quelque sorte, c'était une année où on remettait les compteurs à zéro. Une année de grâce. Une année où l'espoir pouvait revenir à nouveau, où tous ces passifs qu'on avait pu accumuler, eh bien, ils étaient comme évacués par cette grâce. Donc il y a une référence à cette année de grâce. Mais la suite du texte va montrer que l'année de grâce ici, dans Ésaïe 61, concerne non pas simplement une année, mais une nouvelle ère, comme si Dieu inaugurait un temps nouveau dans lequel il oubliait les dettes, il remettait les dettes, les fautes d'autrefois, et apportait une libération nouvelle. Un temps où chacun peut se tourner auprès de Dieu pour que les compteurs soient remis à zéro, pour trouver pardon et rétablissement. Dieu donc, nous dit Ésaïe, va envoyer un messager pour apporter ce message de délivrance. Dans le contexte immédiat, je l'ai dit, ce message il est adressé avant tout à ceux qui sont déportés à Babylone. Mais le texte évoque aussi une perspective plus large, plus universelle. Fin du verset 7, « Leur joie sera éternelle ». Verset 8, « Je conclurai une alliance éternelle avec eux. » Et ça, ce sont des mots qui font écho à un horizon dont Ésaïe a déjà parlé à plusieurs reprises dans son livre, celui d'un monde entièrement renouvelé, d'une terre transformée. Et cette perspective universelle et future, elle est confirmée au verset 11. « Tout comme la terre fait sortir son germe, tout comme un jardin fait pousser ses semences, le Seigneur, l'Éternel, fera pousser la justice et la louange devant les nations. » Quelle belle image. Et on voit au passage que ce n'est pas une intervention massive en un instant, mais c'est quelque chose qui se fait patiemment avec le temps. Dieu fait pousser la justice et la louange. Donc le message proclamé ici est un message de consolation. Mais vous l'avez peut-être repéré, il y a un élément un peu plus polémique dans le texte. Il est question au verset 2 donc d'une année de grâce de l'Éternel, mais juste après, ça peut nous surprendre, d'un jour de vengeance de notre Dieu. Autrement dit, ce sera un temps de grâce, de consolation, mais aussi de jugement. Or, ce jugement, il faut que nous le comprenions, sera aussi une bonne nouvelle, et c'est ainsi qu'il est présenté ici. Et même la vengeance de Dieu, une expression qui peut nous choquer à première vue, c'est vraiment pas, moins qu'on puisse dire, c'est pas dans l'air du temps de parler en ces termes, hein, la vengeance de Dieu, mais même si ça peut nous choquer à première vue, c'est un motif de consolation dans la mesure où c'est une vengeance qui s'exerce contre les oppresseurs. Je sais pas quelle a été votre réaction quand les frères Kouachi, responsables des attentats de janvier 2015, et puis... j'ai oublié son prénom, Koulibaly, bref, quand ils ont été tués dans une usine de Seine-et-Marne pour les frères Kouachi. Est-ce que votre réaction, soyons honnêtes, est-ce que votre réaction était de vous dire quelle tristesse ? Je suis tellement triste pour eux. Je dois vous avouer que ce n'était pas la mienne. Alors, bien sûr, ça ne contredit pas la grâce et le pardon que Dieu offre à tous ceux qui se tournent vers lui-même, les pires des pécheurs. Mais il ne faut pas confondre cette réalité de la grâce disponible, qui est bien réelle, avec le besoin de justice. La justice, c'est une bonne chose. Et ici, Dieu s'adresse à des hommes et des femmes qui sont opprimés, qui sont victimes d'injustice, et il leur dit que le jour vient où justice sera faite et où tous ceux qui auront fait le mal avec impunité devront rendre des comptes à Dieu. Et ceux qui auront placé leur confiance en Dieu, malgré leurs propres démérites, malgré leurs propres fautes, eh bien, obtiendront enfin la paix et la joie auxquelles ils aspirent. Donc ce texte nous parle d'un retournement de situation. Et au verset 8 à 10, c'est Dieu qui prend lui-même la parole pour prononcer ces mots que je trouve magnifiques. « J'aime le droit. » Dieu aime ce qui est juste. Et un peu plus loin, « Je conclurai une alliance éternelle avec eux. » Donc on voit que Dieu envoie un messager qui est pleinement investi de son autorité pour dire « Le temps de l'injustice et du mal est compté, je vais reconstruire, je vais guérir, je vais rendre justice. » Et ce message, il change tout. Il change tout encore aujourd'hui. Ça fait des millénaires que l'homme cherche par lui-même une espérance, en se créant des idoles ou en adhérant à des philosophies en tout genre, en se promouvant des idéaux, y compris de bons idéaux parfois. Mais on remarque que malgré tout ça, le monde ne va pas mieux. Il y a des progrès dans certains domaines, mais des régressions dans d'autres, et ainsi de suite. On dit parfois que la définition de la folie, c'est de refaire inlassablement la même chose en s'attendant à un résultat différent. Et à ce titre, il faut reconnaître que l'humanité, dans un sens, est frappée de folie. On cherche encore, l'homme cherche encore une espérance véritable. Mais s'il y a un créateur juste et bon, à qui tous devront rendre des comptes, un créateur qui intervient dans l'histoire et en maîtrise l'aboutissement, alors la vie n'est pas futile. Alors la vie compte puisqu'elle vient de Dieu lui-même. Et nous pouvons connaître alors la joie et la paix de savoir que nous n'avons pas à donner nous-mêmes un sens à notre vie, puisque c'est Dieu qui définit qui nous sommes et c'est Dieu qui donne un sens à notre vie. Nous savons que nos vies sont entre ses mains. Et d'ailleurs, on voit la réaction d'Ésaïe, très vraisemblablement, c'est le prophète Ésaïe qui reprend la parole au verset 10 et qui dit « Je me réjouirai en l'Éternel, tout mon être tressaillera d'allégresse à cause de mon Dieu, car il m'a habillé avec les vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la justice. » Alors une première question que ce texte nous pose, c'est de savoir si nous sommes prêts à entendre, à réentendre et à nous laisser saisir par ce message qui change tout, ce message de vie et d'espérance. Et est-ce que, comme Ésaïe, malgré nos peines, malgré les épreuves bien réelles, nous trouvons une profonde joie en l'Éternel, verset 10. Est-ce que, finalement, nous nous démarquons d'un monde maussade et triste par cette joie qui dépasse les circonstances? Au fond, si les chrétiens ne sont pas joyeux, qui sera joyeux d'une vraie joie profonde? Et c'est frappant de voir qu'il y a dans ce texte une invitation à la joie, une fois qu'on a présenté cette intervention de Dieu. Mais vous vous dites peut-être que cette délivrance promise, dans un sens, elle se fait attendre, ou en tout cas, on ne la voit pas encore de manière spectaculaire. Et c'est là qu'on en vient plus brièvement au second point, l'intervention d'un héros, OS. Alors l'une des choses qui frappe à propos du mystérieux narrateur de ce texte, c'est qu'il ne se contente pas d'annoncer un message. Il est aussi celui qui va accomplir ce message. Il vient, verset 2, pour proclamer une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu. Et ici, quand le narrateur dit « proclamer une année de grâce », il ne s'agit pas simplement d'informer, d'annoncer un événement, mais il s'agit plutôt d'inaugurer cet événement, de déclarer ouvert, un peu comme on déclare ouvert les Jeux Olympiques ou le Festival de Cannes ou que sais-je. Donc ici, la parole, elle apporte pas seulement une information, mais elle apporte une action. La parole est efficace et elle apporte une action. Et il poursuit à partir de la fin du verset 2. « Pour consoler tous ceux qui sont dans le deuil, pour donner aux habitants de Sion en deuil une belle parure au lieu de la cendre. » Et on voit dès le verset 4 que cette parole, elle a des effets concrets sur ceux qui l'entendent. Ils reconstruiront sur d'anciennes ruines. Ils relèveront les décombres du passé. Ils rénoveront des villes dévastées, des décombres vieux de plusieurs générations. Donc le prophète n'est pas seulement, du verset 1, n'est pas seulement investi de la parole de Dieu, mais aussi de l'autorité de Dieu pour ramener la vie et l'espérance là où le mal et la souffrance règnent. Or, ce portrait d'un homme qui vient apporter l'autorité de Dieu et la délivrance de Dieu, eh bien, ça rappelle furieusement un homme qu'Ésaïe nous a déjà décrit plus tôt dans son livre, dans plusieurs textes, et notamment au chapitre 11. « Puis un rameau poussera de la souche d'Ésaïe, un rejeton de ses racines portera du fruit. » Alors, langage qui peut nous paraître un peu bizarre, qu'est-ce que ça veut dire? En gros, il va y avoir un roi qui va être descendant d'Ésaïe, c'est-à-dire descendant du roi David. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Chapitre 11, versets 1 et 2. Et dans la foulée, il nous est dit que ce roi viendra inaugurer une nouvelle ère. On ne commettra ni mal ni destruction sur toute ma montagne sainte, car la terre, écoutez bien cette image, la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, tout comme le fond de la mer est recouvert par l'eau. De toute évidence, c'est ce même personnage, ce Messie, qui est déjà annoncé au début du livre d'Ésaïe, qu'on retrouve au chapitre 61. Un sauveur, un roi, un héros. Alors, entre ces deux chapitres, que nous dit Ésaïe? Eh bien, au chapitre 53 en particulier, il nous parle d'un serviteur que Dieu va envoyer pour sauver son peuple. Et on remarque en comparant tous ces textes, chapitres 9 et 11, chapitre 40 à 55 en gros, et en particulier 53-54, que... Il y a que Ésaïe reprend souvent le même vocabulaire pour parler de cet homme. Une plante qui sort de la terre, une nouvelle période de paix qui va être inaugurée, un envoyé qui va apporter la justice. Et voici ce qui nous est dit à propos de ce serviteur qui va souffrir pour le peuple. Un texte que beaucoup sans doute connaissent. Ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Et donc, le roi sauveur, le prophète qui va venir apporter cette parole efficace de restauration et de délivrance, c'est aussi le serviteur qui est venu subir le jugement de Dieu à notre place et qui nous offre ainsi le pardon, la guérison, la remise de nos dettes envers Dieu. Alors maintenant, je vous propose de prendre nos télécommandes et de faire une avance rapide de 8 siècles. Après 8 siècles, donc après la rédaction de ce texte, on arrive dans l'évangile de Luc, au chapitre 4. Le texte va être projeté. Jésus, donc verset 14, revêtu de la puissance de l'Esprit, se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Et conformément à son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Il le déroula et trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Jésus commence son ministère en se présentant comme cet envoyé d'Ésaïe 61. Ce héros qui, par la puissance de l'Esprit de Dieu, va apporter le renouveau et la délivrance. Et après sa résurrection, au moment de quitter ses disciples pour retourner vers le Père, Jésus leur dit ceci aux disciples. « Vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Et je voudrais revenir à Ésaïe 61. Quelle est la conséquence de la venue de ce Sauveur? Verset 4, on l'a vu. « Ils reconstruiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront les décombres du passé, ils rénoveront des villes dévastées. » Alors, on peut interpréter ce texte à la lettre en termes du retour des Israélites de l'exil à Babylone. Mais ce texte, et c'est confirmé par ailleurs dans l'Ancien Testament, vise beaucoup plus loin que cela. Comment est-ce que les hommes et les femmes qui ont placé leur confiance en Dieu vont pouvoir reconstruire aujourd'hui? Comment est-ce que nous allons pouvoir reconstruire? Eh bien, précisément en étant portés par le Saint-Esprit pour être témoins de Jésus-Christ, pour être porteurs à sa suite, par le même esprit, de ce même message qui change tout, qui œuvre dans l'ombre en changeant vie après vie, qui est semé patiemment et qui un jour culminera dans un monde entièrement renouvelé. Alors si nous sommes disciples de Jésus-Christ, notre vocation, à la suite de notre maître, c'est verset 4, reconstruire sur d'anciennes ruines, relever les décombres du passé, rénover des villes dévastées. Non pas à la force de nos bras, il ne s'agit pas ici littéralement de reconstruire des villes, mais par la puissance du Saint-Esprit, par des paroles et des actes qui apportent avec eux la puissance, l'espérance, la paix du monde à venir. Est-ce que, si nous sommes chrétiens, nous sommes porteurs de ce message-là? Est-ce que, non seulement au sens où on en parle, c'est important, mais où on est soi-même transformé par cette espérance? Je dois terminer par une petite histoire. Je l'ai évoquée plus tôt. Notre fille a passé plusieurs jours à l'hôpital en début de semaine. Elle a 14 mois. Et assez rapidement, dès qu'elle voyait arriver des médecins, des infirmières, etc., elle commençait à pleurer parce qu'elle s'attendait à avoir mal. Alors, l'équipe était remarquable, hein, ils faisaient ce qu'ils avaient à faire, mais 14 mois, on ne comprend pas toujours ça. Et un après-midi, il y a une dame qui est entrée dans la chambre où était Isaline avec un t-shirt bleu. Et contrairement à toutes les blouses blanches, et elle a expliqué qu'elle était bénévole et qu'elle venait avec une association passer du temps avec les enfants, juste être là avec eux pour les faire rire, pour leur raconter des histoires. Et elle a expliqué que si elle portait un t-shirt bleu au lieu d'une blouse blanche, c'était pour que les enfants voient qu'elle était venue pour autre chose, pas pour un acte médical. Elle était là pour autre chose. Et effectivement, étonnamment, ma fille n'a pas pleuré quand cette dame l'a prise dans les bras et elle a accepté de passer un peu de temps avec elle. En tant que porteur de la bonne nouvelle, de ce message qui change la vie, nous devrions nous démarquer du monde qui nous entoure. Et ça devrait être visible. Et je me prêche à moi-même, hein, ça ne l'est pas toujours. Loin de là. Nous devrions nous démarquer, non pas par un t-shirt d'une autre couleur, mais par une autre façon de parler, une autre façon d'être, une autre espérance. Parce que nous sommes porteurs d'un autre message. Et le monde autour de nous a terriblement besoin d'entendre ce message. Et donc nous sommes appelés à faire connaître au monde qui nous entoure cette parole nouvelle, transformatrice que Jésus est venu apporter par cette puissance du Saint-Esprit, par cette parole qui change nos propres vies, être de ceux qui reconstruisent, qui guérissent et qui délivrent. Amen.